Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose, à travers cet enseignement, de regarder la troisième arme donnée aux chrétiens pour le combat spirituel. Nous avions vu les semaines précédentes l'arme de l'aumône et l'arme du jeûne. Voyons aujourd'hui l'arme de la prière que nous donne Jésus. Je commenterai ainsi l'introduction à la quatrième partie du catéchisme de l'Église catholique, la prière chrétienne, dans la première section, la prière dans la vie chrétienne. Ce sont les numéros 2558 jusqu'au numéro 2565, si vous voulez les retrouver facilement. Au terme du commentaire, je prendrai le temps de donner quelques conseils pour nous aider à la prière. Je lis au numéro 2558. Il est grand le mystère de la foi. L'Église le professe dans le symbole des apôtres, et elle le célèbre dans la liturgie sacramentelle, afin que la vie des fidèles soit conformée au Christ dans l'Esprit Saint, à la gloire de Dieu le Père. Ce mystère exige donc que les fidèles y croient, le célèbrent et en vivent dans une relation vivante et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Cette relation est la prière. La prière est donc la relation dans laquelle les fidèles croient, célèbrent et vivent le mystère de Dieu qui se révèle en particulier à travers l'incarnation du Verbe, le Christ, et sa vie dans l'Esprit Saint à la gloire de Dieu le Père. C'est intéressant de voir que la prière n'est pas une formule magique, que la prière n'est pas un fardeau dont il faudrait s'acquitter comme on s'acquitte d'une dette, mais que la prière est une relation, et donc elle implique notre personne dans la rencontre des personnes divines. J'insiste là-dessus, la prière n'est pas une formule magique, elle n'est pas un impôt que nous devrions verser à un Dieu qui se ferait payer non pas en or, mais en temps de prière, non. La prière est une relation d'une liberté, la liberté humaine qui rencontre la liberté divine. Et l'exigence qui peut y présider, c'est l'exigence de l'amour, c'est l'exigence de l'amitié. Poursuivons la citation. Qu'est-ce que la prière ? S'interroge Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle dit ceci. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Remarquons combien pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, la prière est d'abord un élan du cœur avant d'être la formulation de mots ou de formules convenues. C'est une véritable impulsion et en même temps, dans une grande simplicité, un simple regard jeté vers le ciel, un cri, et donc ce cri, on peut se demander, est-il complètement articulé ou pas ? Ben peut-être pas toujours, mais il exprime la reconnaissance et l'amour. Un cri qui exprime la reconnaissance et l'amour. J'allais dire, on peut du coup le faire monter à tout âge, avant même de savoir correctement parler, même si l'on n'a pas une éloquence extraordinaire, ce cri peut vraiment monter vers Dieu. Et ce cri de reconnaissance et d'amour est prononcé tout aussi bien au sein de l'épreuve, au sein des difficultés, qu'au sein des périodes de joie. Il y a donc une reconnaissance de la bonté de Dieu et de son amour pour nous, aussi bien dans les moments heureux que dans les moments où l'on est plus éprouvé. Et je souligne que cette phrase que prononce Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est tirée des manuscrits autobiographiques dans la partie C. Pourquoi est-ce que je souligne ça ? La partie C, c'est une période où elle se trouve dans la nuit de la foi. C'est-à-dire que lorsqu'elle se met à prier, elle n'a aucune saveur spirituelle. Au contraire, elle a l'impression qu'il y a une voix qui sans cesse lui dit « Tu pries, mais en fait, au-delà de la mort, il n'y a rien d'autre que le néant. » cette espèce de mur dont elle parle qui est comme dressé au-dessus d'elle à chaque fois qu'elle se met en prière. Et donc, elle fait pourtant monter ce cri de reconnaissance et d'amour à Dieu, alors même que son sentiment immédiat n'y correspond pas forcément. On découvre là une chose qui est du coup très importante, c'est qu'il y a une distinction entre prière et sentiment ressenti immédiatement. La qualité de notre prière ne se mesure pas au sentiment que l'on en a. Ça, c'est vraiment très important pour la vie spirituelle. Poursuivons notre lecture avec un nouveau paragraphe. La prière comme don de Dieu. Je lis au numéro 2559. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu, ou la demande à Dieu des biens convenables, dit saint Jean Damascène. D'où parlons-nous en priant? De la hauteur de notre orgueil et de notre volonté propre, ou bien des profondeurs d'un cœur humble et contrit? C'est celui qui s'abaisse qui est élevé. L'humilité est le fondement de la prière. Nous ne savons que demander pour prier comme il faut. L'humilité est la disposition pour recevoir gratuitement le don de la prière. L'homme est un mendiant de Dieu, disait saint Augustin. Notons ici l'insistance mise sur l'humilité. Alors vous le savez bien, l'humilité ce n'est pas le dénigrement de soi. L'humilité c'est un acte de lucidité devant Dieu qui reconnaît la fragilité de notre vie, qui reconnaît sa vulnérabilité, qui reconnaît aussi combien elle a besoin de Dieu même pour vivre. Bien loin d'interpeller Dieu du haut de nos exigences, bien loin de faire de Dieu en fait un instrument pour exaucer nos souhaits, nous nous adressons à lui humblement, nous mendions sa présence, son attention, son action, et même le fait de pouvoir correctement s'adresser à lui. Nous demandons ce don de la prière, nous demandons qu'il nous donne la grâce de le prier comme il faut, cela étant un don même de l'Esprit-Saint. Je poursuis la lecture au numéro 2560. « Si tu savais le don de Dieu, disait Jésus à la Samaritaine en Jean 4, la merveille de la prière se révèle justement là, au bord des puits où nous venons chercher notre eau. Là le Christ vient à la rencontre de tout être humain. Il est le premier à nous chercher et c'est lui qui demande à boire. Jésus a soif. Sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. La prière, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif, que nous ayons soif de lui, disait saint Augustin. Cette approche est vraiment belle parce qu'elle manifeste que la prière n'est pas simplement l'expression de notre indigence que l'on fait monter vers Dieu, mais une rencontre de deux soifs. L'homme a soif et Dieu a soif de l'homme. La prière est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. En même temps, je voudrais lever un soupçon qui pourrait être terrible, car en entendant cela, on pourrait dire « mais Dieu nous aurait créés alors indigents pour que nous soyons obligés de nous adresser à lui » et que ainsi sa soif soit apaisée. Dieu nous aurait fait indigents pour que nous soyons forcés de nous adresser à lui et ainsi d'étancher sa soif. Vous voyez bien que si tel était le cas, ce serait un Dieu assez abominable. Le numéro 2561 nous met sur la piste de la réponse. C'est toi qu'il en aurait prié et il t'aurait donné de l'eau vive, disait Jésus à la Samaritaine en Jean 4. Notre prière de demande est paradoxalement une réponse. Réponse à la plainte du Dieu vivant. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées, rapportait Jérémie comme parole de Dieu au chapitre 2 de son livre. C'est une réponse de foi à la promesse gratuite du salut. C'est une réponse d'amour à la soif du Fils unique. Souvenez-vous du cri de Jésus sur la croix, en Jean 19, « J'ai soif ». Non, Dieu ne nous a pas fait indigents pour que nous soyons forcés de nous tourner vers lui, mais en nous créant, puisque nous sommes créatures, nous n'avons pas la vie en nous-mêmes, Dieu a voulu que nous ne restions pas simplement dans l'état de créature, mais que nous puissions participer à sa vie même, et donc le recevoir, lui, par son Esprit Saint, être divinisé. C'est l'Esprit Saint, c'est l'eau vive dont il est question. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons cette possibilité d'exercer notre liberté pour demander ce don extraordinaire de l'Esprit Saint qui nous fait participer à la vie divine. La prière n'est donc pas la béquille d'un être mal conçu. La prière est le lieu où Dieu se donne à la créature qu'il a appelée à la vie, afin que cette créature participe à sa propre vie qui est communion d'amour. Le catéchisme continue avec un autre paragraphe, la prière comme alliance. Voici le numéro 2562. D'où vient la prière de l'homme ? Quel que soit le langage de la prière, gestes et paroles, c'est tout l'homme qui prie. Mais pour désigner le lieu d'où jaillit la prière, les Écritures parlent parfois de l'âme ou de l'esprit, le plus souvent du cœur, plus de 1000 fois. C'est le cœur qui prie. S'il est loin de Dieu, l'expression de la prière est vaine. Je poursuis au numéro 2563. Le cœur est la demeure où je suis, où j'habite, selon l'expression sémitique biblique, où je descends. Il est notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui. Seul l'Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître. Il est le lieu de la décision au plus profond de nos tendances psychiques. Il est le lieu de la vérité, là où nous choisissons la vie ou la mort. Il est le lieu de la rencontre, puisque à l'image de Dieu nous vivons en relation. Il est le lieu de l'alliance. On désigne donc par là le cœur, le lieu où la décision de l'homme se noue, informée par l'intelligence, par l'essence, par la mémoire. C'est là que, au plus profond de l'être humain, en son centre, pourrait-on dire, se prend sa décision. C'est de là que jaillit la prière. Et le cœur de l'homme est le lieu, on pourrait dire, le plus sacré de l'homme, là où sa liberté s'exprime, et donc là où sa capacité d'alliance se met en œuvre. Remarquez que dans l'expérience biblique, il faut descendre dans son cœur, et donc il faut éviter de rester à la périphérie de son cœur. C'est parfois ce qui nous arrive lorsque nous sommes prisonniers de nos préoccupations, où nous demeurons à la superficie de nous-mêmes, où nous demeurons dans la superficialité, au lieu d'entrer dans ce qu'il y a de plus profond. Notons justement que ça peut prendre aussi un peu de temps pour passer de la superficialité des activités ordinaires à la descente dans la profondeur du cœur pour avoir une parole vraie, une parole qui nous saisisse entièrement. Le numéro 2564. La prière chrétienne est une relation d'alliance entre Dieu et l'homme dans le Christ. Elle est action de Dieu et de l'homme. Elle jaillit de l'Esprit Saint et de nous, toutes dirigées vers le Père, en union avec la volonté humaine du Fils de Dieu fait homme. Ce numéro est presque surprenant. On s'attendrait que la prière soit ce qui nous permet d'entrer en alliance avec Dieu. On espère cette alliance. Or, il nous est dit ici que la prière elle-même, l'exercice de la prière, est relation d'alliance entre Dieu et l'homme. Dans cet exercice de la prière, je suis déjà tout saisi de la présence de Dieu, saisi par l'Esprit Saint, qui va unir ma volonté à celle du Christ, à la volonté humaine du Christ, et qui va me permettre du coup de m'exprimer devant le Père en Fils, devant le Père en vérité, en Fils du Père, dans l'Esprit, par le Christ. L'homme qui se met en prière, en fait, se laisse pénétrer par l'Esprit Saint. On pourrait dire un peu comme le poisson qui est dans l'eau, qui à la fois baigne dans l'eau, mais qui respire de cette eau, et tout ce qu'il est, toute la vie qu'il est saisi, porté, passe par cette eau dans laquelle il baigne. C'est une image qu'utilisait parfois le curé d'Ars pour parler de la prière. Il disait que le chrétien qui entre en prière est comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire qu'il est, il est vraiment dans son milieu, là où il a été fait pour vivre. Et cela nous amène au dernier paragraphe de cette introduction, la prière comme communion, le numéro 2565. Dans la Nouvelle Alliance, je cite, « La prière est la relation vivante des enfants de Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus-Christ et avec l'Esprit-Saint. La grâce du royaume est l'union de la Sainte Trinité tout entière avec l'Esprit tout entier », disait saint Grégoire de Nazianze. La vie de prière est ainsi d'être habituellement en présence du Dieu trois fois saint et en communion avec lui. Cette communion de vie est toujours possible parce que, par le baptême, nous sommes devenus un même être avec le Christ. La prière est chrétienne en tant qu'elle est communion au Christ et se dilate dans l'Église qui est son corps. Ces dimensions sont celles de l'amour du Christ. Remarquons avec ce dernier paragraphe que si la prière est personnelle et peut être accomplie seule au fin fond de sa chambre, on n'est finalement jamais solitaire dans la prière. C'est une prière qui, unie au Christ, se dilate dans l'Église qui est son corps. Donc c'est une prière qui rejoint la prière de tout le peuple de Dieu et qui rejoint la prière du Christ lui-même, qui s'unit à la prière du Christ lui-même. Ainsi, celui qui prie n'est pas tout seul, mais il rejoint ce grand mouvement de ceux qui se tournent vers le Père par le Christ dans l'Esprit. Nous ne sommes jamais seuls quand nous prions. Nous entrons dans un mouvement qui est plus large que notre seule individualité. Cette introduction du catéchisme de l'Église catholique sur la prière étant parcourue avec ses notions de prière comme don de Dieu, prière comme alliance et prière comme communion, cela étant vu, je voulais vous donner quelques conseils. Le premier conseil, c'est de prendre la peine de faire chez vous un coin prière, d'aménager un lieu avec une icône, un lieu avec un crucifix, peut-être un joli tissu, peut-être une bougie, mais qui permet de manifester que lorsque vous approchez de ce lieu, c'est pour entrer en prière. C'est un peu pour ouvrir par cette décoration et puis par le geste que vous ferez pour ouvrir la prière, un signe de croix, une génuflexion, allumer une bougie, ça nous permet d'ouvrir un temps sacré, de sortir de notre façon ordinaire de vivre, mais de prendre conscience que nous nous tournons désormais vers Dieu. Ce temps n'est plus le temps ordinaire, il est un temps sacré. C'est souvent une grande aide que d'avoir un coin prière pour être, j'allais dire, à l'aise devant lui, et pour pouvoir nous concentrer et tenir à distance toutes les distractions qui pourraient nous assaillir. Le deuxième conseil est presque plus un rappel. Nous sommes appelés à nous souvenir que le Christ a pris la peine de prier et de prier longuement. Les évangélistes nous rapportent comment le Christ se levait tôt avant l'aube pour aller prier son Père. Le Christ se donne les moyens de cette intimité avec le Père. Et donc, si c'était important pour lui alors qu'il est Dieu, si c'était important pour lui dans son incarnation, combien plus pour nous ? Mais voyons que Dieu s'est donné les moyens, que le Christ s'est donné les moyens de prier, il en a pris le temps, et donc nous aussi nous devons comprendre que on ne prie pas parce qu'on a le temps, mais on prend le temps de prier. Si l'on attend d'avoir le temps de prier, on ne priera jamais. Vous voyez, même les moines ont cela inscrit dans leur agenda, les temps de prière, pour être sûr qu'ils soient vécus. Sinon, on aurait toujours quelque chose à faire. Il viendrait se substituer à la prière. Troisième conseil, c'est une distinction. Je distinguerai d'une part ce que j'appelle la prière de survie, et d'autre part la prière qui transforme. La prière de survie, c'est une prière rapide, c'est une prière qui dure 5 minutes, c'est une pensée qui monte vers Dieu. Celle-là, on est vraiment appelé à ne jamais y renoncer. Voilà. Vous avez pu vivre la journée la plus abominable de votre existence, vous comporter comme un être le plus infect qui soit, ne terminez pas votre journée sans vous tourner vers Dieu, vous mettre à genoux un moment et dire « Seigneur, je suis là devant toi, je suis peut-être le plus abominable des pécheurs, mais je suis devant toi. » Ça, c'est tenir cette prière de survie, c'est vraiment quelque chose qui sauve. Ne nous cachons pas, ne disparaissons pas devant le regard de Dieu, mais allons nous placer humblement devant lui, quelle qu'ait été notre vie, quelle qu'ait été notre journée. Ensuite, la prière qui transforme, c'est une prière où l'on prend un peu plus de temps. Voilà, parce qu'on a besoin de temps pour être touché, pour être travaillé en profondeur. Et c'est un temps qui, l'expérience spirituelle le montre, commence à partir de vraiment 15-20 minutes. Avant cela, on n'a pas le temps de se laisser toucher en profondeur. C'est pas que Dieu est lent, c'est nous qui avons besoin de temps. Hein. Vous voyez, quand vous voulez teindre un vêtement, vous savez qu'il faut le laisser reposer longuement dans la teinture. Parce que si vous le mettez juste un instant au premier lavage, tout part. C'est pas que la teinture était mauvaise, c'est que le tissu avait besoin de temps pour s'imprégner de cette teinture. Nous avons besoin de temps pour nous laisser façonner par le Seigneur. Et donc peut-être que ce ne sera pas tous les jours où nous prendrons cette prière qui transforme, mais ayons bien à l'esprit que si nous voulons progresser, il faut aussi nous ménager ces moments de prière qui transforment. Si nous ne restons qu'avec cette prière de survie, j'allais dire, nous donnons pas les moyens de transformer notre vie. Le quatrième conseil, et dernier pour aujourd'hui, c'est, en fait, je fais suite à des difficultés dont les gens m'ont fait part de la prière du matin. Ils disent « Ah, c'est difficile la prière le matin ». Alors si vous n'en avez pas l'habitude, si c'est vraiment quelque chose pour vous qui n'a jamais réussi à prendre sa place, je vous invite à deux petites choses toutes simples. La première chose, c'est peut-être au moment du réveil, de faire simplement un signe de croix sur vos lèvres et de dire « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Voilà, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » C'est pas très long, c'est pas très difficile, mais ça permet d'ouvrir votre journée avec le Seigneur. Et si vous n'avez rien et que vous commencez à ça, ben vous avez déjà placé quelque chose. Et puis, dans le prolongement, on pourrait dire, vous n'arrivez pas à prendre un moment de prière et à vous arrêter, alors peut-être que là, vous allez faire du coup l'inverse, c'est que vous allez investir de prière quelque chose que vous faites tout le temps. Et il y a une chose qu'on fait tout le temps le matin, c'est qu'on s'habille. Eh bien, je vous suggère la chose suivante, pourquoi ne pas réciter l'Angélus pendant que vous vous habillez? C'est pas très compliqué, c'est pas très long. Alors dire « Ah oui, mais je vais pas le dire extrêmement bien, je vais pas le dire comme quand je suis pleinement recueilli. » Peut-être pas, mais vous le direz quand même. Et donc au lieu de ne rien faire, vous aurez investi ce temps que de toute façon vous avez par un regard, par une pensée, par une union de cœur avec Dieu. Voilà donc ces petits conseils que je soumets à votre attention. Puissent-ils vous aider à entrer dans cette fidélité de la prière, de vous approprier cette arme de la prière que le Christ nous a confiée. Je vous souhaite une bonne méditation et autant que faire se peut, des échanges peut-être par les moyens électroniques ou le téléphone en ces périodes de confinement. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt.